Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. Comme chaque lundi, nous sommes heureux de vous retrouver et de partager avec vous un enseignement à la fois pour recharger vos batteries, pour grandir, vous inspirer et avoir une vie pleinement épanouie. Êtes-vous prêt? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à la découverte de soi.
J'aimerais que tu m'aides et que tu proclames ce titre à ton voisin. Regarde-le dans le blanc de l'œil. Dis-lui, je ne serai pas médiocre. Cherche un autre voisin. Dis-lui, je ne serai pas médiocre. Saint Thomas d'Aquin était un philosophe et théologien italien qui a vécu dans les années 1200. Ce qu'il a produit comme œuvre a influencé la théologie catholique pendant des siècles. Sa thèse a été de démontrer que la foi et la raison ne pouvaient pas se contredire parce qu'elles émanaient toutes deux de Dieu. Il est même allé un peu plus loin, il a considéré que la philosophie était la servante de la théologie. Une des citations très connues qu'il a laissées au monde est la suivante, et je cite, « Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. » Fin de citation. Juste pour ceux qui prennent des notes, je vais le redire. Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. Il nous est rapporté une discussion qui s'est tenue entre Saint Thomas d'Aquin et le pape Innocent II. Alors que le pape comptait une grosse somme d'argent, il a dit, « Tu vois Thomas, l'Église ne peut plus dire « Je n'ai ni argent ni or. » Thomas répondit, « C'est vrai, Saint-Père, mais elle ne peut plus dire non plus « Lève-toi et marche. » Ce à quoi le pape et Thomas d'Aquin faisaient référence, c'est cette histoire contenue dans le livre d'Actes, chapitre 3. Pour ceux qui ne la connaissent pas, permettez-moi de vous la raconter rapidement. Les apôtres, Pierre et Jean, après l'effusion du Saint-Esprit, vont à la synagogue. Parce que quand bien même rempli du Saint-Esprit, ils considèrent, à juste titre, que ce que Dieu veut faire par eux n'est pas la création d'un mouvement religieux nouveau. Ce que Dieu veut faire par eux, c'est une révolution. Qu'ils vont à la synagogue, et alors qu'ils sont à l'entrée de la synagogue, la porte qu'on appelle la Belle, la Bible dit qu'il y a un mendiant, boiteux, qui tend la main vers eux, et Pierre et Jean disent, regarde-nous. S'attendant à recevoir quelque chose d'eux, il les fixa. Et l'apôtre Pierre va dire ce qui suit. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et nos Bibles disent que le paralytique, le boiteux de naissance, va se lever et va marcher d'un bond. La discussion entre Saint Thomas et le pape m'emmène à réaliser que comme à leur époque, beaucoup d'entre nous, nous considérons qu'il y a une opposition entre le fait d'être riche et le fait d'être puissant par Dieu. Un de mes objectifs ce matin, c'est de vous emmener à réaliser que vous n'avez pas à choisir entre l'argent et la puissance de Dieu. Que vous pouvez, que vous devez avoir les deux. Vous devez, nous devons dans ce temps, dans cette ère, être des hommes qui sont capables de dire, je vais payer tes études. Je vais te pousser dans tes projets. Je vais t'aider à régler cette facture. Mais en même temps que nous soyons capables de dire à un malade, soit guéri au nom de Jésus. Nous devons être capables en même temps d'avoir quelque chose dans les poches, quelque chose dans notre compte en banque. D'ailleurs, la Bible en parle comme disant que nous devons avoir assez pour nous et assez pour toute bonne œuvre. Mais en même temps, nous devons aussi avoir quelque chose d'invisible qui est capable, là où l'argent échoue, de libérer un captif, de faire tomber des chaînes, de briser des malédictions héréditaires. Je m'adresse à quelqu'un ce matin et je dis, Dieu veut que tu sois puissant en œuvre et puissant en parole. Je dis, Dieu veut que tu sois puissant dans les affaires et puissant dans la spiritualité. Que tu ne sois pas quelqu'un de manipulable, d'influençable ou de comestible. Que tu sois capable d'avoir assez de sens pour savoir quand aller à l'hôpital, mais avoir assez de foi pour prier le long du chemin. Je dis que tu sois capable d'associer la foi et la raison. L'apôtre Paul dit, vous avez du zèle sans intelligence. Ça veut dire qu'il est possible d'être zélé, mais d'être stupide. Dans les temps dans lesquels nous sommes, l'Église ne doit pas être stupide. L'Église ne peut pas être folle. L'Église doit être sage. Malgré ce qu'on dit de moi sur les réseaux ces derniers temps, la sagesse du pauvre est méprisée. Tu dois être un riche sage. Un sage riche. Alors qu'on parle de la prospérité ou de l'abondance à laquelle Christ nous appelle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les gens disent qu'en indiquant à l'Église qu'elle doit être riche, que nous tordons le message de l'Évangile, que nous déshabillons l'Évangile de sa puissance. Mais il n'en est rien. Être médiocre, alors qu'on en parle, du moins, alors que étymologiquement, ce mot fait référence au fait d'être au milieu. Quelqu'un de médiocre, c'est quelqu'un d'approximatif. Quelqu'un de médiocre, c'est quelqu'un qui vit sa vie en dessous de ce que son potentiel lui permet normalement d'expérimenter. La médiocrité fait référence au fait d'être insignifiant. Que tu sois là ou pas, ça ne change rien. Ta présence est égale à ton absence. Tu es médiocre. Cette femme qui est malade depuis 12 ans a dépensé tout son argent chez les médecins avant de se rapprocher de Jésus. Et j'ai découvert que le problème de cette femme n'était pas l'argent. C'est le regard qu'elle avait sur elle-même tant qu'elle avait l'argent. Vous le savez certainement, quand vous avez de l'argent dans les poches, dans votre portefeuille, dans votre compte en banque, votre assurance change. Il y a des discours auxquels vous n'êtes pas favorable parce que vous avez l'argent. Certains d'entre vous, vous paraissez humble parce que vous êtes pauvre. C'est Abraham Lincoln qui a dit que le vrai test du caractère de quelqu'un se révèle quand vous lui donnez le pouvoir. Quand elle a de l'argent. Comment tu traites les gens quand tu as l'argent? Snob. Ta façon de parler aux gens, tu as un discours condescendant. Parce que l'argent te fait croire que tu es meilleur que les autres. Et je veux aider quelqu'un ce matin et t'emmener à réaliser que si les gens qui sont autour de toi t'acclament quand tu es au sommet, il faut que tu saches que peut-être ce n'est pas toi qu'ils acclament. C'est le sommet. Il y a des gens qui sont avec toi parce que tu as quelque chose. Si tu veux vraiment savoir qui est avec toi, regarde aux personnes qui t'entourent quand tu n'as plus rien. Quand tu n'es pas capable de payer les factures, de les nourrir. Quand tu es au bas de l'échelle, quand tu es dans la vallée, qui t'appelle? Et le problème de cette femme, c'est le problème de la plupart d'entre nous. C'est que nous ne sommes favorables à l'écoute de certains discours que lorsque nous sommes arrivés au bout de nous-mêmes. Lorsque nous sommes arrivés à nos limites, c'est à ce moment maintenant qu'on est d'accord de se rapprocher de Jésus. Mais j'ai réalisé que cette femme aurait pu sauver son argent si alors qu'elle avait, elle avait cherché Jésus. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, beaucoup d'entre vous, vous agissez comme les compagnons de Jonas, ceux qui naviguent avec lui. Quand vous avez fini de jeter par-dessus bord tout ce qui est en surface, les vivres et la cargaison, et que vous voyez que ça ne change pas, alors vous faites une introspection profonde pour aller découvrir qu'en réalité, tu aurais pu ne pas jeter ta cargaison par-dessus bord si tu étais allé dans les cales, dans la cale au début de ta quête. Avez-vous remarqué que certains d'entre nous, c'est la maladie qui nous a tournés vers Jésus. C'est le goumin qui nous a tournés vers Jésus. Le fait d'être plaqué, une rupture, un divorce, un licenciement. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, la plupart d'entre nous ne cherchent pas Jésus. Mais je veux aider quelqu'un ce matin et je veux prier pour toi. Que Dieu te donne de le chercher alors que tu es au sommet. La main de ton voisin me dérange, mais ce n'est pas grave. Je dis qu'aucune promotion ne te détourne de Jésus. Qu'aucune nouvelle maison, aucune nouvelle voiture, aucun mariage, qu'aucune somme d'argent ne te détourne de Jésus. Lazare est ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare de la tombe. Lazare est à table avec Jésus. Les gens viennent voir, pas juste Jésus, mais Lazare qui a été ressuscité. Sauf que vos Bibles disent que Lazare va juste être là. Pendant que ses sœurs vont servir, tu imagines, Jésus t'a ressuscité et tout ce que tu fais, c'est juste être là. Tu imagines, Jésus t'a élevé, Jésus t'a guéri, Jésus t'a restauré. Les gens viennent voir, pas juste Jésus, mais ce que Jésus a fait de toi. Et quand ils te regardent après la résurrection, tu es exactement identique à la personne que tu étais avant la résurrection. Je dis, le diable est un menteur. Je dis, Jésus ne me laissera pas neutre. Jésus ne me laissera pas insignifiant. Je ne serai pas médiocre. Regarde ton voisin, je ne serai pas médiocre. Écoutez, être au milieu, c'est un peu ce que la Bible dit en Apocalypse. On dit à l'ange d'une église, ce que j'ai contre toi. Tu n'es ni chaud, ni froid, tu es au milieu. Tu n'es excellent nulle part, tu es au milieu. Tout ce que tu fais est médiocre. Tu chantes, tu es médiocre. Tu accueilles, tu es médiocre. Tu balais, tu es médiocre. Tu travailles, tu es médiocre. Tu es au chômage, tu es médiocre. Ça veut dire, quel que soit l'endroit où Dieu te place, la médiocrité est attachée à ta vie. Et tu demandes une promotion, tu demandes une entreprise, tu demandes un mariage, tu demandes une opportunité. Mais la vérité, c'est que Dieu regarde à comment tu agis, comment tu te comportes, à où tu es. Ce que certains oublient, c'est que la promotion, ce n'est pas d'abord plus d'argent, c'est plus de travail. Il n'y a qu'à l'église où les gens disent, Seigneur, donne-moi la promotion. Oh, si moi aussi on pouvait me nommer. Mais tu ne dureras pas une semaine. lorsqu'on veut expulser Daniel du palais, Daniel a vu plusieurs rois se succéder les uns aux autres. Et Daniel est toujours au palais. Écoutez-moi, ça va vous choquer. Pas juste à cause de son Dieu. La première chose qu'on veut attaquer, lorsqu'on veut l'expulser, c'est son travail. Les gens qui en ont après lui vont examiner son travail. Et la Bible dit que dans tout son travail, ils ne purent trouver aucune faute. Vous imaginez, quelqu'un qui bosse et il n'y a rien à redire sur son travail. Il est à l'heure. Ce qu'on lui demande de faire, il le fait et il fait le kilomètre supplémentaire. Après avoir cherché partout, ils étaient obligés maintenant d'aller dans la foi, dans la religion, dans la spiritualité pour dire, comme on ne peut pas trouver de problème dans son travail, demandons au roi de mettre un décret pour que personne ne prie un autre Dieu que lui. Mais toi, on n'a même pas besoin. Écoutez, je vais vous choquer. Tu dis, tu es attaqué. Oh non, évêque, il y a des sorciers dans mon lieu de travail. Oh évêque, il y a des francs-maçons, il y a des rosicruciens, il y a X, il y a Y. La vérité, c'est que personne ne t'attaque. C'est ta médiocrité qui t'attaque. L'endroit où ils n'ont même pas besoin de demander tu pries où. Ils n'ont même pas besoin de demander tu appartiens à quel lieu. On dit évaluons son travail. Dès qu'on évalue ton travail, c'est bon, on a trouvé l'endroit, on a trouvé la faute, on a trouvé ce qu'il fallait. C'est moi qui prêche. Voilà une femme qui est malade, révérende Diane. Et quand bien même elle a dépensé tout son argent et qu'elle aurait pu sauver son argent si elle avait accepté d'aller à Jésus avec son argent. J'ai une très bonne nouvelle. Je suis content de lire dans ce texte que cette femme, à cause de son argent, a pu aller voir des médecins. Écoutez-moi bien. Je suis convaincu que ces médecins n'étaient pas médiocres. Parce que cette femme n'aurait pas perdu que son argent. Si elle avait été mise entre les mains de médecins médiocres, elle aurait perdu sa vie. Je dis gloire à Dieu. Parce que avant que quelqu'un ne soit prête à rencontrer Jésus, Dieu met sur son chemin des gens qui sont excellents dans son travail, dans leur travail, qui permettent que la personne ait encore une longue vie pour venir à Jésus. Mon problème, c'est qu'est-ce que les gens découvrent en toi avant de venir à l'église. Ok, il n'est pas prêt à venir à l'église. Elle n'est pas prête à rencontrer Jésus. Mais si elle t'a rencontré sur le chemin, normalement tu dois prolonger sa vie et ne pas l'arrêter. Je dis normalement tu dois être le sel de la terre et la lumière du monde. Normalement. C'est Mahatma Gandhi à qui on attribue cette réflexion. Mahatma Gandhi a dit j'aime Jésus. Mais j'ai un problème avec les chrétiens. Jésus, je l'aime bien. Mais quand je regarde à ses fils, à ses adeptes, ça me dérange. Et il y a des gens qui aiment bien Jésus, qui aiment ce qu'il prône, qui aiment sa réflexion, qui aiment ses valeurs. Mais le problème qu'ils ont, ce n'est pas Christ, ce sont les chrétiens. Médiocre sur toute la ligne. Et c'est eux qui disent Dieu est vivant. Au travail, oh l'évêque Michel prêche. Ton temps de travail n'est pas fait pour écouter les prédications de l'évêque Michel. Ton temps de travail est fait pour travailler. Dis-moi que tu m'écoutes pendant la pause, d'accord. Mais ne me dis pas que tu m'écoutes pendant que tu voles ton patron du temps pour lequel il te paye. Chrétiennes sur leur téléphone, on arrive à l'hôpital et on dit Madame, excusez-moi, je voudrais un rendez-vous avec le docteur. Elle est au téléphone en train de parler avec Sako. Mako, est-ce que tu sais que. Mako, oh, en fait. Et pendant que tu es là, tu attends. Je vous parle de quelque chose que j'ai déjà vécu. Pendant que tu es là, tu attends. Et tu, c'est toi-même qui es mal à l'aise parce que tu as le sentiment que tu déranges quelqu'un dans sa propre chambre. Et tu lui dis, bon, tu vérifies, on est quand même à l'hôpital. Et tu attends et à un moment, ça monte. Madame, excusez-moi. C'est comment? Vous voyez pas que je suis au téléphone? Et Et après, tu découvres qu'elle prie à ses reines. Après, tu découvres qu'elle est dans nos églises et que c'est elle qui lève les mains le dimanche en disant « Jésus est merveilleux. Oh Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Je t'annonce prophétiquement qu'on va te virer. Ah, je t'annonce prophétiquement qu'on va te chasser de là. Je dis que Dieu te sorte des environnements où tu apportes la médiocrité. » Je vais prier maintenant qu'on licencie tous les chrétiens médiocres. C'est vous qui gâtez les pays, c'est vous qui gâtez les entreprises, c'est vous qui gaspillez la réputation de Jésus. Je dis qu'on vous sorte de vos environnements, que ce que tu ne valorises pas, qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Après, c'est toi qui demandes l'onction. Évêque, imposez-moi les mains. Révérend, mets l'huile, mets la main là. Le problème, c'est que l'onction ne change pas la médiocrité. On a des médiocres oints. Des paresseux oints. Je vais atterrir. Cette dame a dépensé son argent chez les médecins parce que les riches ne dépensent pas là où il y a la médiocrité. On prie pour que Dieu vous donne de nouvelles sources de revenus. On prie pour vous que Dieu nous donne le pays. Les familles chrétiennes doivent posséder le Gabon. Mais au moment où les gens qui ont l'argent cherchent où mettre leur argent, ton nom ne vient jamais à leur tête. Ton produit que tu veux vendre, sur ton propre produit, il y a des fautes. Textes, tu mets S là où on met ENT. Ils disent, toi tu nous rassures que disent avec il S, c'est S. Et c'est là que tu nous dis que Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Dieu regarde au cœur, mais les riches regardent à ceux qui frappent les yeux. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller sur Google? Qu'est-ce que ça te coûte de vérifier tes textes? Qu'est-ce que ça te coûte de te parfumer? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte de vérifier ton hygiène? Pourquoi est-ce que tu dois nous étouffer? Pourquoi? On t'a fait quoi? Mais c'est quand même toi qu'on attaque. C'est ton odeur qui t'attaque.
Ah, je vais prêcher ce matin.
Je dis ce matin, oh, quelqu'un m'a provoqué. Je dis c'est toi-même qui t'attaque. C'est toi le sorcier de ta propre vie.
Évêque, depuis que je dépose les dossiers, on ne m'appelle pas.
Comment tu t'es présenté? Comment?
Et ce sont les chrétiens qui sont forts pour dire non, les liens ancestraux. Le grand-père au village, c'est pas le grand-père, c'est pas la grand-mère.
Je dis, c'est ton hygiène de vie.
Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte de vérifier, d'apprendre de nouveaux mots? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte d'être excellent dans ce que tu fais? Qu'est-ce que ça te coûte?
Quelqu'un me contacte il y a quelque temps en me disant, évêque, on cherche un profil. Il m'envoie les qualifications du profil qui est recherché. Je regarde les qualifications. Puis je pense à vous. Puis au moment où je veux recommander quelqu'un, le bon sens, le Saint-Esprit, la sagesse, me disent non, ton nom, tu vas gâter ton nom. Parce que la personne à laquelle je pense ne paye pas sa dîme. Et je me dis, si elle vole Dieu, elle va voler l'entreprise. Je pense à un frère. Et je vois, le gars ne sert jamais, c'est un consommateur éternel. Il vient, il s'assoit, il chauffe les bancs, il écoute le message. Amen, c'est un bon message. Il part. Je me dis, non, aucune valeur ajoutée. Je pense à quelqu'un d'autre. La personne est toujours en retard au culte. Toujours. Quand je dis toujours, je n'exagère pas. Toujours. Il fait beau en retard. Il pleut en retard. En retard. Et là, je me dis, si tu n'es pas fidèle, excellent dans ta foi, tu seras excellent où? On ne te force pas à venir à l'église. Personne ne te soulève du lit le matin si tu es un adulte. Comment tu fais pour venir avec tes propres pieds en retard? La distance, je comprends, mais il y a des gens qui habitent plus loin que toi, qui sont à l'heure, qui n'ont pas de voiture. Donc, quand on a fini, j'ai regardé, j'ai rappelé la personne, j'ai dit à personne. Authentique, je sais qu'il y a des gens qui cherchent du travail. Mais moi-même, je me suis dit, mon nom, point guerre. L'autre chose que je veux vous donner, j'atterris parce que c'est la fin. J'ai découvert, ça va vous faire du bien, que si Dieu ne t'aide pas, moi je ne dois pas t'aider. Je disais dernièrement, mon épouse, je lui disais dernièrement, il y a des gens, quand tu regardes leur vie, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi Dieu ne les aide pas. Écoutez-moi bien, il y a des gens, quand vous allez investir en eux, vous allez comprendre pourquoi Dieu. Dieu les laisse comme ça. Même Dieu. Dit, la seule chose que je te donne, le soleil, la pluie, l'air, parce que tu es médiocre. Et toi, tu vas être pris de compassion. Tu vas porter le fardeau de quelqu'un comme si c'était toi, Jésus. Et quand tu vas vouloir l'aider, oh, la personne va te montrer. Quand la femme touche le bord du vêtement de Jésus, une force est sortie de lui. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que sans préparation, sans savoir, Jésus était prêt. J'ai dit ça au premier culte. Être homme de Dieu, femme de Dieu, ça demande qu'on se prépare. On ne vient pas vous prêcher des messages les mains dans les poches. On étudie, on lit, on fait des recherches, on ne dort pas, on prie, on jeûne. Toi, tu es nourri à ça et c'est toi qui ne lis pas. C'est toi qui n'étudie pas. C'est toi qui ne travaille pas. C'est toi qui ne réfléchis pas. Tu veux ouvrir un salon de coiffure, mais même si tu es entre griffes autodidacte, va apprendre de quelqu'un qui a l'expérience avant toi. Pourquoi tu veux brûler les cheveux des autres? Oh non, je veux ouvrir un restaurant. On doit, nous, parce qu'on était frères et sœurs en Christ, on doit venir manger chez toi, alors que quand on te regarde, tu ne laves jamais les mains. Toi-même, quand on te regarde, ça dit toi-même, quand on te regarde, est-ce qu'on a envie de manger ta nourriture? Laissez la cafette, ne nous cherchez plus là-bas. À la cafette, il y a les cafards, il y a les trucs. Ça, c'était avant quand on n'avait pas l'argent. Maintenant qu'on est un peu à l'aise, on aime manger dans des endroits où tu ne vois pas les souris passer pour dire que non, on mange ensemble ici. Non, toi, tes ongles, jamais propres. Je vais vous parler ce matin. Tes ongles, jamais propres. Je ne sais pas comment vous appelez la repousse ou les choses que vous faites, mais ça là. Te coiffer, tu sais pas. Et même là, c'est parce que Dieu ne nous a pas ouvert les yeux sur la couleur. Donc maintenant, explique-nous
sorcellerie qui te bloque. Regarde ton voisin, dis, je ne serai pas médiocre, moi. Oh. Parle à ta voisine, dis-lui, moi, je ne serai pas médiocre. Non, je ne serai pas médiocre. Ma présence ne sera pas égale à mon absence. Quand je suis quelque part, ça va se savoir. Je vais embellir l'endroit. Ma présence va valoriser l'endroit. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis, bouscule deux, trois personnes. Dis-leur, je ne serai pas médiocre.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ce podcast pour en écouter davantage. Restons connectés également sur les réseaux sociaux et le site internet michelambourouet.com. À lundi prochain, ici même, pour encore plus d'inspiration. Passez une excellente journée sous la bénédiction de Dieu. À très bientôt.